Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 28e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Descartes et la question « Devons-nous nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ?» Selon un mot fameux de Martin Heidegger, la bombe atomique aurait explosé une première fois dans le Cogito, et plus spécialement dans cette sixième partie du discours de la méthode, où Descartes semble renoncer à une science contemplative pour se tourner résolument vers une science opérative et inaugurer l'entreprise de domination de la Terre par l'Occident. Le but serait de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, projet anthropocentrique qui réduit la nature à un mécano manipulable à notre guise et qui a eu pour conséquence la grave crise environnementale que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce bien là cependant la pensée de Descartes ? Certes, il en appelle à l'invention technologique, mais cet appel, avant d'être moderne, se veut profondément chrétien. Et s'il s'agissait pour lui non pas tant d'asservir la nature que de servir le prochain ? C'est ce que nous allons voir en relisant l'un des plus célèbres passages du discours de la méthode.
Sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique et que, commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusque où elles peuvent conduire et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusqu'à présent, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes. Car elles m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie. Et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps que s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. On se pourrait exempter d'une infinité de maladies, tant du corps que de l'esprit, et même aussi peut-être de l'affaiblissement, de la vieillesse, si on avait assez de connaissances de leurs causes et de tous les remèdes dont la nature nous a pourvus.
Fabrice Adjadj, j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachés sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer, autant qu'il est en nous, le bien général de tous les hommes. Quel est le contexte de ce texte ?
C'est la fin du discours de la méthode, et cette fin revient au commencement, c'est-à-dire à la motivation de l'écriture de ce texte. C'est-à-dire que tout le discours de la méthode consiste à fonder une nouvelle science, hein, cette science admirable, au service de la vie, utile à la vie. Et comme vous l'avez dit, hein, ce qui est très étonnant dans la citation que vous avez donnée, c'est qu'au cœur se trouve un verbe qui n'a pas du tout l'air d'être un verbe lié à la technoscience, qui n'a pas du tout l'air d'être un verbe même qui relèverait de, je sais pas, de la philosophie en général, qui est la possibilité de pécher grandement. Alors, c'est très étonnant qu'ici, pourrait le prendre de manière faible, rhétorique. Péché n'a pas du tout le sens du péché religieux. Mais là, péché grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu'il est en nous le bien général de tous les hommes. Donc, il y a une loi qui nous oblige, donc c'est bien formellement ce qu'on entend le péché, la loi de Dieu qui nous ordonne de nous aimer les uns les autres, d'aimer mon prochain comme moi-même, et je ne dois pas pécher contre cette loi. C'est-à-dire que je veux faire de la science, je veux contempler très bien, mais il faut que cette contemplation soit subordonnée à la charité et à la charité fraternelle. Donc, le contexte, c'est que de manière presque incidente, revenant sur ce qui a motivé la recherche de cette méthode et cette refondation de la science, de manière incidente, Descartes nous dit que c'est pour aider son prochain, c'est pour secourir le prochain, c'est pour secourir ses frères, et donc que derrière cela, derrière cet acte de naissance d'une technoscience, il y a vraiment une obligation de charité.
Ce qui est très étonnant, Fabrice Hadjadj, c'est que Descartes vise, comme il le dit lui-même, à une philosophie pratique qui donc vise à l'utile, mais pour tout cela, il va mettre en place quand même un système spéculatif assez important pour vraiment donner aussi une assise, non seulement d'obligation, mais aussi une vraie assise spéculative, métaphysique à tout cet édifice.
Bien sûr. Alors même qu'on pourrait penser que d'autres philosophes, parce qu'ils parlent de notre vie, sont beaucoup plus concrets, et que Descartes, parce qu'il s'intéresse à des questions d'optique, à des questions de physico-mathématiques, est au contraire très très abstrait et difficile à lire. Oui, mais ce détour par la physico-mathématique, c'est bien l'idée de pouvoir se rendre comme maître de la nature, être capable de manipuler les éléments du monde, les forces du monde, pour pouvoir les mettre au service du prochain.
Fabrice Hadjadj, dans la lettre préface au principe de la philosophie, Descartes utilise une image qui reprend un peu ces éléments de cette sixième partie du discours de la méthode, où il compare l'ensemble de son système philosophique à un arbre dont la métaphysique serait les racines, la physique serait le tronc, et ensuite les branches qui portent des fruits seraient la médecine, l'éthique et la mécanique. Et donc on retrouve les trois éléments un peu ici, à la fois donc la mécanique qui permettrait de réduire la pénibilité du travail, la médecine qui permettrait de redonner la santé, de même contrecarrer la vieillesse et de supprimer ses effets indésirables, et on l'a pas vu mais un peu plus loin, voilà, même la morale qui permettrait de faire le bien en toutes circonstances. On a l'impression que Descartes revient à un autre arbre, fait référence à un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que face aux malédictions du péché originel, Descartes se voit investi d'une mission divine. Dieu nous a donné une intelligence qui nous permettrait de répondre aux malédictions que notre péché a causées.
Oui, il y a une ambivalence, mais c'est sûr que il faut ne pas pécher. Et donc, le péché a consisté à prendre du fruit de la connaissance du bien et du mal, mais il y a dans la connaissance aussi la possibilité de limiter donc certains effets, effectivement, du péché. Mais ça ne veut pas dire, hein, parce que là, on pourrait se dire, mais alors voilà, on est typiquement dans le projet transhumaniste, d'ailleurs, enlever peut-être l'affaiblissement de la vieillesse, peut-être qu'un désir d'éternelle jeunesse, projet d'une sorte de grande distribution où plus personne ne cultiverait vraiment la terre, puisqu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre, de toutes les commodités. Est-ce que c'est pas déjà l'écran tactile, on appuie et puis on a tout de suite les choses, on n'a pas besoin de se bouger. Est-ce qu'il n'y aurait pas vraiment quelque chose de oui, enfin, de ce qu'il y a de pire, hein, déjà chez Descartes, c'est Rakersville, Elon Musk, les interfaces hommes-machines, etc. Bon, sans doute qu'il ouvre la voie à cela, mais à aucun moment, vous voyez, il ne dit que les hommes vont devenir moralement bons par ce biais-là. On pourrait se dire, voilà, les hommes plus sages, plus habiles. Mais est-ce qu'il s'agit de la sagesse morale ? On est dans un ordre pratique, mais ça ne nous dit pas que les hommes vont devenir meilleurs.
Non.
Au sens moral du terme. Donc, je ne crois pas que ce soit vraiment ce projet de Descartes où il y aurait une confusion entre le progrès moral et le progrès technologique. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une affirmation pour nous très étonnante, et on revient un peu à ce qui a été dit au début. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, mais il y a deux choses. Les gens manquent de méthode, ils ne suivent pas les bonnes voies. Et puis, autre problème, ce qui empêche l'exercice de l'esprit, c'est certaines dispositions du corps. Et là, à nouveau, il dit, mais tout le monde pourrait devenir plus sage si on aidait les personnes à être en meilleure santé ou avoir un corps voilà, plus sensible, s'il est diminué d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est très étonnant. D'abord parce qu'on est dans un lieu qui montre bien que s'il y a une dualité du corps et de la pensée chez Descartes, il n'y a pas de dualisme. Les deux sont unis et de la bonne disposition des organes du corps dépend l'exercice de la pensée. Il y a cette phrase qui est très, très étonnante, hein, que la santé, donc le bien du corps, est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie, car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps que s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. On pourrait dire, c'est terrible. Voilà, on voit exactement la substitution. La médecine est un sacerdoce, la médecine se substitue au sacerdoce, les médecins deviennent les grands prêtres qui vont sauver les âmes parce qu'ils sauvent les corps, l'âme dépendant tellement du corps. C'est pas ce que dit exactement Descartes quand même. Mais simplement, il affirme cette unité, de cette dépendance radicale de l'esprit à l'égard du corps et du fait que la médecine, ben voilà, quoi, quand on a un très fort mal de crâne, quand on est, ben, il y a des moments où on ne peut plus penser. Il a fait juste cette expérience lui-même qui a été d'une santé fragile, il sait le prix de la santé. Donc, il faut se soucier du prochain et se soucier des corps. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce détour par la physique mathématique, pour pouvoir améliorer la condition humaine. Mais ça ne veut pas dire sauver l'homme. Attention. C'est pour ça qu'il y a une grande différence avec un projet de salut comme tel par la médecine.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, devons-nous nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature ? Alors Fabrice Hadjadj, ces intentions de Descartes, nous voyons, sont très louables et il cherche vraiment le service de son prochain, mais il y a ce passage central de ce texte qui pose quand même beaucoup de problèmes. Ils sont propres, ces moyens, à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Est-ce que Descartes n'est pas en train, d'une part, de se substituer à Dieu et d'autre part, en train d'autoriser toute l'exploitation de la nature qui s'en est suivie depuis ?
Alors oui, exploitation de la nature, c'est un projet cartésien, non pas simple contemplation de la nature. Et ça, il faut le dire sans aucune réticence ni correctif. Encore, il faut entendre peut-être ce que veut dire le mot exploitation. Mais alors, sur la phrase comme telle, on pourrait dire l'intention est bonne, servir son frère, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où on passe une limite, voilà, parce qu'on ne respecte plus l'ordre de la nature, etc. Bon. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une démesure, une hubris, ce que les païens diraient, hein, se prendre pour un dieu, parce qu'on voudrait se rendre comme maître et possesseur de la nature, une telle affirmation est impossible. Pour un stoïcien, se rendre comme maître et possesseur du cosmos, enfin, dire, ça n'a pas de sens. Parce que nous sommes des parties du cosmos. Voilà. Et même chez les stoïciens, même les dieux, d'une certaine façon, sont pris dans, chez les hindous, le dharma chez les Grecs, ils enveloppent pas vraiment le cosmos, ils sont pas absolument parlant transcendant au cosmos. Ils sont dans le cosmos, chez Épicure, chez les stoïciens. Donc, personne n'est maître et possesseur de la nature. Ça n'a aucun sens dans ce monde-là. Donc, effectivement, c'est une affirmation qui tranche complètement avec le paganisme. Et la question est de savoir si, est-ce que cette affirmation est chrétienne, elle a un fondement chrétien, mais est-ce qu'elle est au-delà de cela ? Alors, déjà, Descartes ne dit pas « se rendre maître et possesseur de la nature ». Il dit « se rendre comme maître et possesseur de la nature ». Donc, il y a sans doute un maître et possesseur de la nature, ça n'est pas nous, c'est plutôt Dieu. Mais nous pouvons être comme lui. Alors vous pouvez dire, mais c'est précisément ce que proposait le serpent, vous serez comme des dieux, voilà. Le comme, être comme Dieu, soyez parfait comme votre Père est parfait, c'est aussi une proposition positive dans les Écritures. Donc, quel est le sens de ce comme ? Ce comme montre que nous ne sommes pas maîtres et possesseurs, mais que d'une certaine façon, nous avons l'intendance de cette nature. Donc, le second récit, c'est intéressant, dans la Genèse, il y a deux récits. Il y a le récit où l'homme apparaît après les plantes et les animaux. C'est le récit de la création en sept jours. Puis il y a le récit de l'Éden, où l'homme est créé avant les plantes et les bêtes, et où il nous dit qu'il n'y avait pas encore de plantes ça parce qu'il n'y avait pas encore l'homme et il n'avait pas encore plu. Bon. Donc il faut l'homme et la pluie pour qu'il y ait des plantes et pour qu'il y ait des bêtes. Mais ça veut dire que l'homme est vu non pas comme une partie simplement de la création, mais comme l'intendant de la création qui lui est confié par Dieu, puisqu'il est là pour cultiver et garder le jardin. Et est-ce que se rendre comme maître et possesseur, est-ce que ça ne veut pas dire être l'intendant de la création qui nous est confiée par Dieu et faire autant que possible usage de notre connaissance pour être les bons intendants, c'est-à-dire pour que dans ce monde se déploie la justice et la miséricorde, la bonté, et notamment la bonté à l'égard de nos frères. Donc vous voyez, quand il y avait une maladie, un stoïcien pourrait toujours dire « ça ne dépend pas de moi, je dois consentir, c'est l'ordre de la nature, accepter cet ordre de la nature ». Une personne meurt, c'est normal, nous sommes mortels. Un enfant meurt, c'est qu'il était voué par la destinée à mourir. Pour un chrétien, c'est le péché qui a fait entrer la mort, et il faut quand même, autant que possible, empêcher nos enfants de mourir, et donc trouver des médications, trouver des moyens. On avait dit que Descartes avait perdu une fille, Francine, et que ça a été un grand deuil pour lui, bien la mort de l'enfant, voilà. Est-ce qu'on peut empêcher cette mort de l'enfant ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il écrit ce texte quand même avant d'avoir perdu son enfant.
Bien sûr.
Il y souscrirait d'autant plus après, mais il ne l'écrit pas circonstanciellement suite à la mort de cet enfant.
Non, c'est parce qu'il écrit ce texte que son deuil peut être un deuil aussi profond. Parce que sinon, on pourrait dire, il s'agit d'acquiescer. Il est dans cette posture-là, et donc on doit mettre en œuvre toute une médecine, cette médecine technoscientifique, qui fait que Descartes est mort jeune, mais il a fondé la science qui lui aurait permis de vivre davantage. Donc il y a cette manière, oui, d'exploiter la nature pour servir le prochain. Maintenant, jusqu'où ? C'est ça notre question.
Si vous me permettez de revenir à Heidegger que j'ai cité en début de mon introduction, est-ce que justement Heidegger ne montre pas la limite, une limite importante quand même de cette conception trop scientifique et trop utilitariste du monde et dont le monde ne serait qu'à notre disposition pour s'en servir ?
Oui. Alors je ne dirais pas utilitariste, c'est un sens très précis en philosophie, voilà. Utilitaire, pratique, oui, certainement. Que la pensée cartésienne ait des limites, oui. Nous avons aussi, beau jeu de faire une lecture rétrospective où nous avons été confrontés à ces limites. La conscience de la limite des ressources naturelles, ce n'est pas une conscience qui est celle de Descartes. Donc, on a été confrontés à ces choses-là, et c'est à l'épreuve de la réalité, on pourrait dire, et des dangers que nous avons pu, qu'on peut aujourd'hui faire un volte-face d'une certaine façon et dire, voilà, il y a une limite de cette pensée. Mais on ne peut pas nier ce que cette pensée a ouvert comme chemin. Je ne serais pas là pour vous parler parce que je serais mort de l'appendicite en bas âge ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a quand même la réduction de la mortalité infantile, la réduction de... Voilà, c'est un effet quand même de ce renouvellement de la science par Descartes. Maintenant, nous sommes face à un monde nouveau et on ne peut pas accuser Descartes comme tel. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est ce que montre très bien Ivan Illich, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des seuils critiques. Il y a un moment où la science progresse, et puis arrive à une sorte de maximum, où tout progrès supplémentaire a induit des inconvénients, voire même des désastres, voire même une société de l'hyper-contrôle, une société où on veut tellement, par exemple, empêcher la mort d'un enfant prématuré qu'on finit par inventer un utérus artificiel et que ça finit par servir à ce qu'on appelle l'ectogénèse, à ne plus porter des enfants dans le sein des femmes, mais à les produire avec ça. Ouais. Donc, à quel moment, en fait, voilà, le fait qu'on maintienne, par exemple, les gens en vie au maximum et qu'on les prive de leur mort, on est dans l'acharnement thérapeutique, ce qu'on peut faire aujourd'hui, et qu'on n'est plus des êtres pour la mort, mais des êtres pour la démence sénile, mais éventuellement, jusqu'où aller? Et même, par exemple, dire si on peut vivre 300 ans, est-ce qu'il faut vivre 300 ans? Voilà, toutes des questions qu'on a déjà abordées ici, mais vous voyez, là, il y a un seuil critique, et c'est là qu'il peut y avoir un vrai problème. Mais là, on est au commencement, si vous voulez, on n'est pas au moment du seuil critique.
Est-ce que un des grands manques chez Descartes, on pourrait dire justement, et on en a déjà parlé dans les émissions précédentes, mais est-ce que justement ça a été de ne pas penser une morale qui accompagnait son projet technique, même s'il ne pouvait pas en envisager toutes les conséquences? Est-ce que le fait qu'il y ait vraiment un manque d'une morale propre chez Descartes n'est pas peut-être un des points vraiment critiques de son système?
Oui, il n'y a pas de bioéthique, il n'y a pas d'éthique de la technologie, c'est vrai, parce qu'il est face à quelque chose qui déclenche, et de toute façon, la morale ne peut se déployer qu'à l'épreuve aussi de certaines expériences. Enfin, c'est justement pas une science appliquée, la morale. Elle est dans le domaine proprement pratique, où il faut faire l'expérience des choses. Donc, on pourrait reprocher ça à Descartes. D'une certaine façon, c'est plus l'affirmation de Bacon. Parce que Francis Bacon, qui est donc aussi un autre fondateur, on pourrait dire, de la science moderne et de l'entreprise technologique, mais lui, chez Bacon, il y a deux idées. L'idée qu'on pourrait presque revenir à l'Éden grâce à cette technoscience, qui n'est pas du tout l'idée de Descartes. Et l'autre idée, c'est que, de toute façon, il faut pousser cette science jusqu'au bout, et nous avons suffisamment de religion pour empêcher les dérives. Et alors, est-ce que Bacon était effectivement suffisamment religieux, ou est-ce que c'était aussi une affirmation un petit peu en l'air pour laisser le règne de l'ingénieur, mais Descartes, c'est vrai que la condition, quand même, c'est d'être un homme de la tradition et un homme qui accueille la vérité chrétienne. À aucun moment, Descartes ne remet en cause la foi chrétienne. Et donc, c'est là où on pourrait dire que l'arrière-plan de ce texte, c'est de dire qu'il ne le thématise pas dans le texte, mais parce que c'est la vie de Descartes, c'est parce qu'on est dans le grand siècle, parce que les grands débats politiques, religieux, ne sont pas des débats contre la religion, mais à l'intérieur de la religion, entre jésuites et jansénistes, par exemple. Mais il n'y a pas, à un moment donné, l'idée d'une remise en cause des préceptes de l'Évangile. Donc, c'est ça, c'est que ça n'est pas thématisé à l'intérieur du texte, la possibilité de l'abandon de ces préceptes, et qu'il faudrait trouver une morale en dehors de cela. Non, Descartes est chrétien et il pense que l'Évangile est un garde-fou suffisant. Maintenant, ça signifie que le problème, ce n'est pas la technologie. C'est tout d'un coup la technologie sans l'Évangile. Eh bien oui, ça devient tout d'un coup une entreprise, c'est une nouvelle religion, l'idolâtrie suprême, et ce qui va vouloir se substituer, bien sûr, au véritable salut.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec René Descartes, Fabrice Adjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les samedis à 10h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.